Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Des arts de la scène de Radio Campus. Obama est élu et nous, on continue tous le sourire aux lèvres malgré la grisaille bruxelloise. Au programme, on ira au Théâtre National pour Heroes Just for One Day. Non, c'est pas du Bowie, c'est une mise en scène du jeune Vincent Hennebic. On ira voir Antigone. Nicolas Antigone, dans quel lieu? Haha.
Aux galeries.
Antigone aux galeries. On ira du côté du TTO Toison d'Or pour La vie, c'est comme un art, pièce sur l'immigration dans le cadre notamment de Daba Maroc. On fera quelques annonces de reprises, notamment de Kiss and Cry, qui est déjà presque full, mais qui revient pour une deuxième fournée en janvier. Et on ira faire un tour du côté d'un festival de danse qui a lieu jusqu'à la semaine prochaine du côté des Brigitines, Olivier.
Voilà, bonjour.
Ça me permet de vous introduire. Bonjour, salut. Bonsoir.
Donc je vais vous parler de la nouvelle création de Vincent Hennebic au National, Heroes Just for One Day. Donc on avait pu voir sa première mise en scène au mois de mars dernier, Parasite, un texte de Marius von Mayenbourg qui parlait des petits gens qui cherchaient justement à exister à travers leur propre individualité. Et ici, il nous retrace le parcours d'un homme qui a 60 ans, qui se présente à nous comme étant Jean-Pierre Baudson. Donc le comédien Jean-Pierre Baudson se présente, je m'appelle Jean-Pierre Baudson, je vais vous raconter ma vie.
Ah ouais.
Il est dans une chambre d'hôpital en tenue de malade, la chemise de nuit verte. Il y a une infirmière qui vient, donc on se rend compte qu'il a quelque chose d'assez grave. Et là, l'infirmière sort et il va avoir des flashs sur son passé. Donc, on passe dans une espèce de fantasmagorie où il revisite un petit peu son parcours, son enfance. Où là, on lui dit que quand il sera adulte, il pourra faire tout ce qu'il veut. Son mariage, son premier enfant, la construction de sa maison, son travail, où il travaille à la chaîne, où il s'use les mains. Donc c'est un parcours assez classique, assez dur, une vie assez monotone, je dirais. Et il se retrouve là dans cette chambre d'hôpital à presque se détester.
Ça, c'est le prologue, parce que c'est un spectacle-concert.
C'est un spectacle-concert. Donc, quand on rentre dans le studio du National, on est accueilli par Jean-Pierre Baudson dans cette tenue de malade, qui nous accueille, qui fait la bise aux spectateurs, qui nous salue.
Oui.
Donc, il met à l'aise tout le monde. Et derrière, sur la scène, c'est un set de concert. Donc, ce sont des podiums recouverts de noir, avec des instruments, une batterie, deux guitares, il y a un violon, il y a un synthé. C'est plutôt un spectacle opératique. Donc, il y a des côtés récitatifs et des côtés. Il y a 5-6 chansons par l'excellent Greg Rémy du groupe Rugunzi. Heureusement qu'il est là.
Il compose des chansons?
Oui, ce sont des compositions, excepté Heroes Just for One Day, que l'on entend à la fin et que l'on écoutera tout à l'heure.
Ce que je ne comprends pas, c'est Jean-Pierre Baudson, il est en tenue de malade.
Voilà,
sur certaines photos, on le voit à page, par exemple.
Mais voilà, en fait, la première scène, c'est cette scène dans l'hôpital où il se fait un peu réprimander par son infirmière parce que il est incontinent et donc il faut le changer. Donc l'infirmière sort et il se déshabille et en fait, il revêt des vêtements de rocker. Un peu à la Johnny Hallyday des années 80 en cuir noir. Et c'est là qu'il va se remémorer sa vie. Et en fait, ce qu'il a toujours voulu être, ce qu'il aurait voulu être, c'était une star de rock parce que la star de rock, pour lui, représente la liberté. On peut faire ce qu'on veut en étant une star de rock.
C'est une espèce d'hymne à Born to be Wild, Vivre libre et mourir. Est-ce que c'est une espèce d'hymne à la liberté quand on est vieux?
Plutôt une prise de conscience que quand on est jeune, les choix que l'on fait sont valables pour toute une vie et qu'ils sont vraiment, enfin, c'est important et qu'on paye l'importance de ses choix jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, c'est un vrai drame qui nous est présenté, même si la forme ne le présente pas comme un drame, parce que il y a beaucoup d'humour. Jean-Pierre Baudson joue là-dessus avec le public, avec les autres. Les chansons sont très péchues, très, très rock'n'roll, même si elles vont pas jusqu'au bout du concept de concert. À la fin, Jean-Pierre Baudson se suicide quand même. Mm-hmm. Donc, il arrive à un constat d'échec.
Et est-ce que Vincent Henbig, le jeune metteur en scène, c'est sa deuxième mise en scène, est-ce qu'il arrive à nous mettre sur le fil entre le concert et le théâtre, parce qu'on est au théâtre.
Est-ce qu'il y a du jeu, en fin de compte ?
Oui, il y a du jeu. Les comédiennes, musiciennes interviennent aussi. Par exemple, il y a François Sauveur qui joue du violon. Il interprète aussi la conscience de Jean-Pierre Baudson. Donc, il y a un dialogue entre Jean-Pierre Baudson, qui devient Poppy Jones, le héros une star de rock, et sa conscience jouée par François Sauveur.
C'est très difficile dans les spectacles concerts. On avait eu Strange Fruit à la bande du Varia. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, finalement, on attend les morceaux musicaux. Est-ce que ici
non, ici, c'est vraiment bien intégré, surtout que c'est pas toujours des chansons, c'est parfois des morceaux juste musicaux. Il n'y a pas nécessairement du texte. Au début, il y a du texte. Il y a une chanson a cappella chantée par Olivia Barrière, je pense, en allemand. C'est traduit. Non, c'est assez fluide et on n'est pas non plus dans l'attente. C'est pas une suite de morceaux entrecoupés de passages joués.
Mais toi, Olivier, tu me disais, tu n'es pas tout à fait rentré dans cette
forme. Par rapport à l'énergie, par rapport au jeu de certains comédiens qui sont très faibles. Donc, il y a l'excellente Lucie Debay et François Sauveur. Il y a Greg Rémy à la musique qui donne quelque chose d'assez unifié à l'ensemble.
Et Raven Ruel est là.
Raven
aussi.
Ruel aussi, qui joue le fils de Jean-Pierre Baudson. Il y a un dialogue assez fort entre le fils et le père qui est assez beau. Mais voilà. Jean-Pierre Baudson, pour moi, les intonations sont plus vers penchent plus vers la comédie que vers l'intériorité, vers les failles, il a quand même 50, 60 ans, il analyse son parcours de vie qui n'est quand même pas très positif. Et voilà, je pense que ça ne se sentait pas trop, enfin, en tout cas, ne le portait pas hier soir.
Il ne porte pas jusqu'au suicide, parce qu'en plus à la fin, parce que c'est un personnage qu'on devine tous, c'est le loser. Donc, à un moment donné, il y a un imaginaire du loser qui peut être porté sur scène.
Et ça, c'est un peu un imaginaire cliché pour François Henbig et qui, moi, m'a un peu déçu.
C'est à voir jusque quand, cette curiosité-là. Heroes,
jusqu'au 17 novembre, donc encore jusqu'à samedi en 8. Et c'est au Théâtre National, www.theatrenational.be.
Voilà, j'en profite, Nicolas, que tu es en face de moi. Je t'entends très mal en retour, mais toi, tu es parti voir Antigone, la révoltée.
Eh oui, la révoltée. Il faudrait peut-être un petit peu recadrer aussi la création de ce texte de Jean Anouilh. Ça a été publié et joué pour la première fois en 1944, encore sous occupation allemande. Et c'était évidemment Antigone comme une résistante face à la France pétainiste. C'était ça à l'origine de ce texte. Et c'est bon de l'avoir en tête de ce contexte de création, puisqu'en effet, la légende d'Antigone, la légende grecque, est une légende de résistance et de combat contre l'ordre établi. On rappelle l'histoire en deux mots. Antigone voit ses deux frères s'entretuer pour diriger Thèbes. Son frère qui était, entre guillemets, prince légitime, décède et a droit aux honneurs pour son décès. Son autre frère, le rebelle, lui, meurt aux portes de la ville et son corps devra rester aux portes de la ville, quasi dans une fosse commune. C'est ce qu'elle n'accepte pas. Ce sont mes deux frères et je vais aller à l'encontre des règles de la cité pour aller le chercher, lui offrir la sépulture à laquelle il a droit, il est mon frère comme l'autre. Voilà, c'est un peu cet acte de résistance que pose Antigone. Et Jean Anouilh nous offre un assez beau texte finalement là-dessus, dans cette pièce en un acte qui nous est proposée par le Théâtre des Galeries. On retrouve bien dans la distribution Wendy Piette, qui était nominée au prix de la critique pour Un seul en scène qu'elle avait fait l'année dernière au Méridien. Ici, on la retrouve en Antigone, une Antigone avec pas mal de subtilité. Elle arrive à la porter tout ça, toute, toute l'ambiguïté de son discours aussi, puisqu'elle hésite pas mal. Elle a l'influence de sa nourrice, l'influence de sa sœur et l'influence de son oncle, qui est Bernard Sanz, ici interprété par Bernard Sanz. Alors, dans cette pièce, on essaye une actualisation. Fabrice Gardin, qui met en scène, tente une actualisation, mais cette actualisation n'est pas vraiment projetée dans un climat et dans un environnement précis. On ne sait pas très bien où on est. La première partie de la pièce se déroule dans un décor un peu rétrofuturiste, industriel, avec la grosse tuyauterie. C'est assez impressionnant et massif. Donc, c'est pas mal. C'est métallique aussi. C'est assez impressionnant. Mais on se demande alors où on va, où il nous emmène et pourquoi nous mettre dans ce décor-là, finalement. Un décor qui se transforme dans la deuxième partie, lorsqu'elle sort de la ville pour aller chercher la dépouille de son frère, au pied d'un mur, un peu comme les grandes grilles qu'il y a aussi entre la frontière américano-mexicaine. Mm-hmm. Enfin, on est un peu dans ce no man's land là, avec des caisses posées sur le sol. Et ce décor va servir de face à face entre Antigone et son oncle vis-à-vis de la position d'Antigone par rapport à son frère. Alors, on assiste vraiment à un face à face tout en puissance entre Bernard Sanz et Wendy Piette, trop en puissance selon
Mais
moi.
C'est tout le nœud de la pièce. Alors, le nœud de la pièce, obéir aux lois ou me révolter, chacun joue son rôle. Hein.
Alors tout est là, évidemment, mais au niveau du jeu, on s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus subtil et de plus en variation d'intensité, alors qu'on assiste, en tout cas moi je l'ai vu lors de la première, c'était une espèce d'augmentation des décibels sans forcément avoir trop de... Surtout, c'est un peu... Pour Bernard Sanz, c'était en tout cas le cas. Wendy Piette un peu plus varié, mais enfin, c'était un peu dommage à ce niveau-là. Et le deuxième reproche que je ferai à cette pièce, qui garde quand même un texte, il faut le reconnaître, le texte est là et il est bien retransmis, mais c'est justement cette actualisation, finalement. Est-ce que Fabrice Gardin essaye de nous donner une universalisation de l'acte de résistance? Moi, j'ai besoin d'un peu plus de concret, nous dire aujourd'hui, la résistance, elle se porte où et dans quoi? Et rien dans le décor qui est un petit peu impressionnant que Passepartout.
C'est une pièce plus philosophique, de philosophie politique, donc la dater ou la préciser. Ce qu'il y a, c'est que tous les gens qui mettent en scène vont vous dire que c'est d'une actualité criante. Moi, ça, j'en peux plus d'entendre ça au théâtre, parce qu'à un moment donné, on n'est pas nécessairement obligé de mettre une référence à aujourd'hui. On peut aller voir même une pièce en costume et avoir une réflexion. Et,
mais alors pourquoi, mais pourquoi alors mettre ces décors très massifs et qui n'apporte pas grand-chose, voilà.
Parce que c'est très difficile de se contenir et se dire « je vais aller dans quelque chose de minimal, les gens ont besoin d'un décor », mais en même temps, quand tu dis les tubes métalliques et tout, on peut voir les fondations d'une ville, hein, les trucs souterrains.
C'est plus industriel, en tout cas.
Et puis la frontière, elle peut être juste, parce qu'elle est, je crois qu'Antigone, les sépultures sont à la frontière de Thèbes.
En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi, personnellement, en voyant cette pièce, qui se laisse finalement quand même regarder. Dommage qu'il n'y ait pas plus, je le rappelle, de variation d'intensité dans le jeu des comédiens. On citera aussi Benoît Verhaert, qui est là pour faire le cœur, en effet. Mmh. Il est un peu le reporter, si vous voulez, qui vient faire des photos des situations qui se passent. Et Louise Rocco en nourrice également, Nicolas Doutremont, Tony D'Antonio, Kevin Ekobek, etc., etc.
Ah, il y a du monde.
Ah oui.
Est-ce que la tension est mise, la tension du texte? Parce qu'il y a un suspense.
Je rappelle, il y a, je dirais pas un suspense, il y a une montée d'intensité. Et c'est ça que je disais, c'est que si on va trop dans les cris, après, on n'entend plus. Mm-hmm. Mais elle est là, cette montée d'intensité.
Parce que ce qui est intéressant dans ce genre de pièce, dont on connaît déjà, enfin, avant d'aller la voir, on connaît la fin.
On connaît
l'histoire, on sait comment ça se termine. Donc c'est justement comment ça va se dérouler, comment les comédiens vont mettre en œuvre cette confrontation.
Et évidemment, tout est concentré autour de ce face-à-face entre Wendy Piette et Bernard Sanz, puisque c'est là le cœur de la pièce, c'est là où tout se dit. Et voilà, parce qu'elle le dit elle-même, j'ai envie de ne pas devoir choisir et de pouvoir faire ce qui me semble juste. Voilà.
Et le roi d'amour doit aussi faire ce qui est juste et doit aussi la condamner. Voilà, en tout cas, c'était Heroes en première partie au National. Et Antigone, ici, un texte peu joué de Hanouille.
Je vais rappeler les dates peut-être d'Antigone. Mm-hmm. C'est à voir donc jusqu'au 18 novembre du côté du Théâtre Royal des Galeries, trg.be.
Voilà, en tout cas, là, on fait notre pause musicale avec un extrait de la pièce Heroes de Vincent Hinebeek au Théâtre National.
Thank you.
Heroes Just for One Day, titre d'un spectacle au Théâtre National et aussi de ce titre de David Bowie que l'on vient d'entendre, de retour dans la conspiration des planches.
Voilà, et c'était la comédienne Lucie Debay qui entonnait la petite chansonnette. Justement, Nicolas, je me retourne vers toi, tu es parti voir carrément
déjà,
autre chose.
Oui.
Et oui, la vie c'est comme un arbre dans le cas de Daba Maroc.
Et oui, l'arbre ça a des feuilles, ça a un tronc, ça a des racines, c'est ce qu'on nous raconte dans ce spectacle. L'histoire de racines évidemment, c'est ça qui est important dans cet arbre, dans cette vie d'immigrés qu'on nous compte ici. C'est dans le cadre donc de Daba Maroc, comme tu le disais. Et ce spectacle connaît quand même un joli succès public, puisqu'il tourne depuis 2 ans, je crois, avec 33 représentations, 8200 spectateurs. Enfin bref,
ça,
les chiffres sont là.
Ça, c'est leur communication, ça.
En effet. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un trio de jeunes gens sans emploi dans le Tanger de 1964 qui ils sont abandonnés à la fois par leur famille, par leur femme ou par leur boulot. Évidemment, ils perdent leur boulot. Et donc, ils se disent, le paradis, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. On va remonter en Belgique. Ah, j'ai un cousin là-bas, il a du travail pour nous. On va aller vers cette terre promise, puisqu'en plus, des traités bilatéraux avaient été signés à l'époque entre la Belgique et le Maroc pour faire venir de la main-d'œuvre dans les usines, dans les mines. Bref, on connaît cette histoire. Et ici, elle nous est racontée d'une façon plutôt comique. C'est un spectacle assez varié dans le sens où on est dans de la comédie pure, avec parfois des accents de cabaret, avec des rôles assez typés. Surtout dans le trio de base, on a d'abord l'image de Rachid Hirschi qui interprète une espèce d'intellectuel marocain qui a fait de belles études mais qui ne trouve pas de travail et qui ne se conforme pas à la vie que lui ont tracé ses parents, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, et bref, voilà. Mohamed Ouachen, lui, interprète une espèce de petit bonhomme assez comique et naïf qui se fait abandonner par sa femme au Maroc et qui décide de partir, mais il est un peu timide, craintif, en tout cas très drôle. Et il est un peu comme un Buster Keaton ou un Charlie Chaplin. D'ailleurs, il en adopte la démarche et quelques tics pour interpréter ce rôle. Et enfin, on a Issa Makel qui, lui, interprète un coiffeur dragueur roulant des mécaniques au regard de braise. Mais on verra surtout que c'est son ignorance ou en tout cas sa naïveté, là aussi, qui l'emporte sur cette façade. Et alors, ces trois caractères vont être confrontés, évidemment, à l'accueil en Belgique, un accueil qui sera fait par une espèce d'entrepreneur bruxellaire à la bedaine pleine de bière qui essaiera de leur dénicher du travail et les logera dans un appartement un petit peu miteux. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette pièce ? Eh bien, c'est quelque chose d'assez bizarre dans le message qu'on veut nous montrer. On nous montre vraiment une immigration sous l'angle d'une comédie presque slapstick, on dirait, où vraiment on est proche du film muet tout à l'heure, et puis on balance, en tout cas rarement, dans le côté dramatique de cette immigration. Alors on peut se dire, oui, en effet, voilà, pourquoi pas, ces gens sont issus de cette immigration et donc ils posent ce regard-là sur l'immigration de leurs parents.
Déjà d'abord, c'est le TTO, donc elle prend les spectacles aussi par humour, ils en ont fait une comédie. C'est bien de le préciser, c'est la première génération d'immigration. La pièce est écrite dans un contexte, je crois que l'auteur était animé dans une maison de quartier d'Annesen, et il a fait cette pièce en hommage à son papa, et il a travaillé ça avec des comédiens amateurs, et après ils ont voulu, avec Mohamed Ouachen, de rebondir sur la scène professionnelle. Est-ce qu'il y a cette odeur de théâtre amateur
En tout cas, pas dans le trio qui est principal. Le trio principal assume bien ses rôles, que je rappelle, assez typés et vraiment propres à la comédie. Par contre, dans les seconds rôles, là, c'est vrai parfois dans le cliché fort appuyé, comme cette famille, cette mère marocaine envahissante, hurlante, yoyotante, enfin bref, il y a tout. Et aussi ce patron bruxellois, on dit il sort d'où, c'est même plus Beulemans, quoi, c'est vraiment autre chose. Donc là, on est un petit peu trop, je trouve, dans la caricature, trop tirée, en fait. Pour nous, Et ce qui empêche, en fait, moi, ce que le petit reproche que je ferais à ce spectacle, c'est que on en oublie le parcours finalement de ces gens. On a l'impression que c'était si simple, ou en tout cas, ils le prennent tellement facilement, les épreuves qui s'offrent devant elles, que voilà, on est là. Alors, en fait, le message de ce spectacle, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces gens pensaient revenir au pays après, et ils ne le feront pas. Bien évidemment, parce que finalement, leur pays devient la Belgique. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faudra retenir, c'est que cette immigration pensée venir, pas s'enrichir, mais en tout cas gagner un petit peu d'argent ici, pour pouvoir vivre là-bas de manière digne, dans un pays qui ne le permettait pas, ça ne s'est pas fait. Et ça, c'est l'histoire de la vie, un petit peu, comment elle s'est posée.
Est-ce qu'il y a dans le texte des accroches pour le temps présent ? Sur l'immigration, par exemple, de la troisième génération, enfin les enfants d'immigrés.
Assez peu, ou je dirais même pas, puisque même, je vais dire, même l'allusion à l'époque, elle est très ténue finalement. On est face à ça. On sait qu'on est en 64, à Tanger, par les décors, pas par le décor, mais par les costumes ou en tout cas les petites allusions. Par rapport à aujourd'hui, ben, c'est un peu plus ténu. Quoi.
Donc on fait vraiment le voyage dans la première génération d'immigration avec les accents et tout ce qui va avec. Alors tu as quelques you-you dans la pièce ?
Oui, évidemment. Oui. Ben, je te dis, la mère qui est contente quand lors de l'annonce d'un mariage. Mais ça, j'en dis pas plus. Je vous laisse aller voir ça. Du côté du TTO, c'est jusqu'au 1er décembre.
Le Belge aussi a l'air typé. Donc tout le monde en prend pour son
style. www.ttotheatre.be.
Alors moi, je voulais vous parler de Kiss and Cry, qui est de Jaco van der Maal et Michel Andemé, couple à la vie comme à la scène ici. Mais Nicolas me dit que c'est complètement full pour ces dates.
C'est ce que j'ai entendu dire, mais je n'ai pas encore confirmation officielle. Mais je sais que pour la reprise au mois de novembre, c'est déjà bien plein. Voilà.
Alors sachez que déjà, on est en 2012, que déjà depuis 2011, il y a deux tubes pour l'instant sur la scène. C'est Cendrillon de Pomerat, qui risque aussi d'être full, et Kiss and Cry de Jaco van der Maal et Michel Andemé. Alors qu'est-ce que c'est Kiss and Cry ? Il y a aussi Thomas Gunzig qui fait le texte, c'est un peu sur le temps qui passe et les amours passés d'un petit personnage qui s'appelle Ginette. Je dis petit, pourquoi ? Parce que tout se passe ici dans des miniatures. C'est vraiment de la danse miniature, par exemple avec deux doigts. On peut danser et créer des personnages. Tout ça est filmé live par Jaco van der Maal et donc en grand écran. Et on est vraiment dans l'univers de Jaco van der Maal avec cette fameuse voix off qui nous emmène dans le passé. Et on atterrit dès le début sur un petit personnage qui est dans un coin de gare, une femme âgée, je pense, et qui repense à ses amours passés. Et on retourne dans des univers flashback. Mais bon, dans le système, dans tout l'univers de la miniature, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Il y a la neige, il y a la mer.
Et c'est un spectacle de danse aussi.
Et c'est un spectacle, tout se fait par des doigts et des rencontres.
De danse des doigts.
Oui. Ouais.
Et un conseil, c'est essayer de vous mettre le plus près possible de la scène, parce que sinon, on est comme au cinéma, on ne voit que ce qu'il y a sur l'écran.
On voit ce qu'il y a sur l'écran, on voit quand même tous les gens se déplacent, parce que le but, c'est tout se fait en live. Tout se fait direct, c'est le théâtre artisanal avec une caméra. Tout le monde est là, se déplace discrètement. Et c'est un très beau voyage dans le temps et dans les amours. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez voir ce magnifique spectacle qui tourne et qui tourne et qui tourne, il y a intérêt à réserver dès maintenant pour janvier et février. Donc, ça reprend en janvier au Théâtre National.
Du 8 au 26 janvier. Et je crois que ça va encore tourner aussi pas mal.
Oui.
Voilà.
Autre annonce, c'est un festival de danse.
Le Yet Olivier. Erst Festival, la quatrième édition de ce festival biannuel initié par le Dance Centrum Jet, qui présente chaque deux années les productions des deux années précédentes écoulées. Donc c'est une mise en avant de ses créations, de son travail. Et cette année, il essaime un peu partout dans la région bruxelloise, au Bronx, au Caille, au Brigittine. Et et au Brigittine sera présenté ce 8, 9, 10 à 20h30 le spectacle de Marey Morales et Antia Diaz, Le Pli, un duo qui explore l'intimité féminin.
Ça, c'est au Brigittine.
Au Brigittine, la semaine prochaine, on pourra voir les Slovaques au CAI, mais on en reparlera peut-être la semaine prochaine.
Donc ça, c'est jusqu'au 18, c'est la quatrième édition
de ce festival.
De ce festival. Moi, j'en vous emmène encore annonce, mais une annonce assez intéressante, au Beaux-Arts, où on joue le purgatoire de Dante. Enfin, Dante, comme me disait un ami, on a mis Dante à toutes les sauces, tout le monde se dit, voilà, ils se sont vraiment inspirés de Dante, mais pas au pied de la lettre. C'est Vincent Dunoyer, chorégraphe, et Rudy Meulemans, qui est dramaturge, auteur et metteur en scène. Et en fait, dans le purgatoire, c'est une ascension d'un mont vers quelque chose de plus céleste. Et ils ont pris au moins ce principe. Et ils nous emmènent dans une promenade spirituelle, on va dire, de la marche du promeneur, des souterrains du parking. Il y a un parking souterrain aux Beaux-Arts, jusqu'à la terrasse au sommet du palais de Beaux-Arts. Tout ça, c'est le parcours de cette pièce, de cette nouvelle création. Et en cours de route, on a des étapes où on rencontre un danseur, un chanteur. Il y a la peinture aussi mélangée. Donc, il y a un parcours déambulatoire à travers les Beaux-Arts, qui est finalement le personnage principal de cette pièce, et avec un texte de Dante réaménagé, vraiment probablement très réaménagé par Rudi Meulemann. Ça commence ce soir et c'est jusque dimanche au Palais des Beaux-Arts.
Je redonne les trois sites internet. Oui. Alors pour Kiss and Cry, www.theatrenational.be. Pour le Festival des Brigittines, www.brigittine.be. Et pour les Beaux-Arts, www.beauxarts.be.
Et on va terminer comme ça la conspiration des planches. Alors je résume parce qu'il y avait beaucoup, il y a toujours, et il y a énormément de théâtre. Hein. Il y a Heroes, concert, musique, théâtre au Théâtre National. Antigone, la révoltée au Théâtre des Galeries. La vie, c'est comme un arbre, histoire de la première génération d'immigration, parce qu'après ce sont les enfants des immigrés. La première génération d'immigration au Théâtre de la Toison d'Or, ça vous dit déjà le style, c'est l'humour. Festival, je n'arrive pas à le dire,
Jetzt Erst.
Festival de danse, Olivier nous conseille d'aller voir Le Pli au Théâtre des Brigittines. Et alors pour l'expérience des Beaux-Arts, la déambulation à travers le bâtiment des Beaux-Arts, c'est Le Purgatoire de Dante par Vincent Dunoyer et Rudi Meulemann. C'est à la semaine prochaine. Merci Nico, merci Olivier.
À la semaine prochaine.
Et pour toutes les reprises, sachez aussi que nos podcasts sont disponibles depuis le début de notre mise en ligne, en tout cas de ces podcasts, sur le site demandezleprogramme.be. Et on en reparlera bien évidemment aussi la semaine prochaine. Très belle semaine à vous et à bientôt. La conspiración.